I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go!
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission draft du podcast Touchdown Actu avec les Tyden à l'honneur dans ce 482e volet. Jalen Widermaier est-il un talent générationnel? À quel niveau se situe cette classe? Qui sont les sleepers à surveiller de près? Toutes ces questions posées aujourd'hui en compagnie de Monsieur Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Grégory, bonjour à tous.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ah oui.
Une éternité, comme dirait l'autre. Donc, en plus, tu n'es pas là pour les running backs, j'en suis très très déçu, mais tu es là quand même pour les Titans. Une classe relativement homogène, on n'aura peut-être pas forcément d'énormes talents, et comme tu me disais en off, on n'a peut-être pas affaire au meilleur, au plus haut du plateau de college football à l'issue de cette saison. Mais en attendant, on a des profils assez intéressants malgré tout.
Oui. Bah, on a deux grandes stars qui attendent des années d'après. Mais comme tu as dit, cette année, c'est très homogène et j'ai envie de dire très diversifié. On a beaucoup de profils différents. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tight end est un poste qui, selon les schémas de jeu, est très hybride. On n'attend pas forcément la même chose dans toutes les équipes. Donc, il y en aura pour tout le monde.
Et on commence dès à présent par le tiers. Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Avec Jalen Widermaier, tight end de Texas A&M, joueur qui cette saison a culminé à 40 réceptions, 515 yards et 4 touchdowns. C'est pas foufou d'un point de vue statistique, mais on rappelle que A&M est pas forcément cette année en tout cas, était pas forcément une université très réputée pour le jeu aérien. On a couru en grande partie du côté d'A&M et c'est aussi dans cet exercice-là que Widermaier s'est développé, Victor. On s'attardait sur les linemen offensifs la dernière fois avec Jean-Mi sur le profil extrêmement complet. Il y a quand même peu de choses globalement que ne sait pas faire Widermaier dans les missions qu'on peut confier à un tight end.
Oui, ça c'est sûr. Et c'est ce qui fait qu'il est déjà avant la saison, il était un des tight ends les plus regardés. Malgré une saison en demi-teinte, mais comme tu l'as dit, pas aidé par le schéma, il est toujours aujourd'hui dans le premier chapeau. C'est plutôt un phénomène physique. C'est-à-dire qu'il est à 1m96, 115 kg, ce qui ne peut pas paraître énorme, mais sur le terrain, il paraît beaucoup plus puissant que peuvent être les joueurs autour. C'est un joueur qui progresse, c'est un joueur qui est intéressant en ce qui concerne la réception quand il s'agit de faire des 50-50. Il est présent, il sait positionner son corps. Bon bloqueur, tu l'as dit. J'ai envie de dire que son seul défaut, et ce n'est pas quelque chose qu'il pourra vraiment travailler, c'est qu'il manque de vitesse, en fait. Pour en faire vraiment un joueur top 20, il aurait fallu qu'en plus, il soit rapide. Il n'a pas l'air quand même d'être particulièrement ni explosif ni rapide. Par contre, tu l'as dit, il est extrêmement utile et il y a quand même peu de chances qu'il ne contribue pas dans une attaque NFL.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en effet, de par le profit très, très grand, c'est vrai que c'est pas un... Je ne sais pas exactement si tu as une comparaison appropriée, mais ouais, on va plus être sur le profil en effet d'un joueur. Déjà, tu préfères quoi ? Tu préfères le côté réception ou le côté vraiment bloqueur ? Parce que je le sens peut-être plus à l'aise dans un profil vraiment pur bloqueur dans un premier temps et justement à développer dans le domaine aérien par la suite.
Oh, je pense qu'il pourra contribuer aux deux, mais c'est sûr que s'il peut être dans un schéma plutôt axé sur le jeu de course, ça peut être pas mal. Là, je vais faire un peu mon homer, mais par exemple, ça n'arrivera pas, mais imaginons que les Eagles veulent, ils ont un tight end un peu receveur comme Dallas Goedert, ils pourraient vouloir compléter avec un joueur comme ça. Il y a d'autres équipes portées sur la course qui pourraient avoir l'utilité d'avoir un joueur comme ça. Donc, aujourd'hui, voilà, je n'ai pas vraiment de comparaison pour lui, mais je pense qu'on est dans ce type de joueur qui, globalement, toutes les équipes Renivy vont le regarder, mais à mon avis, plutôt au second.
Ouais, il y en a qui le situent plutôt fin premier, mais c'est vrai que, voilà, c'est, on va dire, ça me paraît peut-être le plafond, entre guillemets, draft. Le concernant aujourd'hui, hein, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un combine absolument bluffant. Mais en l'occurrence, tu l'as dit, ce n'est peut-être pas ses qualités athlétiques qui vont lui permettre de se mettre le plus en évidence aux yeux des équipes NFL. Donc, c'est vrai qu'on est plus sur un solide deuxième tour. Très clairement, ouais. vu la classe de tight end, ça peut être un début de deuxième tour si vraiment il y a une équipe qui en a besoin, en effet, et qui est intéressée par le bonhomme. Parce qu'il y a quand même globalement, même si on a cité deux joueurs dans ce tiers 1, à mon sens, il y a quand même un mini fossé entre Weidermeyer et peut-être les joueurs qui le suivent. Donc voilà, ça reste à débattre. Mais en attendant, voilà, Weidermeyer s'est quand même distingué à une expérience un peu plus notable. Enfin, voilà, c'est 3 années comme titulaire quasiment du côté des AM. Donc c'est clairement pas négligeable dans une conférence aussi compétitive que la SEC et dans une attaque qui s'est notamment offert le scalp d'Alabama cette saison. Faut pas l'oublier, par exemple. On passe au deuxième profil, Trey McBride, tight end de Colorado State. Alors, je vais essayer de retrouver ses stats très rapidement parce que, bien sûr, je ne les ai pas sous les yeux. Mais ça a été assez productif pour Trey McBride du côté de l'attaque des Rams dans une saison pourtant assez compliquée hein, pour Colorado State. Joueur qui avait décidé finalement la saison passée de revenir en universitaire alors qu'il avait la possibilité de s'inscrire en NFL. A raison, manifestement, ça fait partie de ses profils. Qui ont bien fait de revenir sur les bancs de l'université, puisqu'en l'occurrence, cette saison, Trey McBride, c'était 90 réceptions pour 1121 yards et un touchdown. Alors, ça fait un peu léger, mais là encore, on va dire qu'on se répète un peu, mais si l'attaque aérienne de Texas A&M n'était pas le point fort de l'équipe texane, on ne peut pas vraiment dire que l'attaque en règle générale du côté de Colorado State était vraiment transcendante. Ça se limitait globalement à McBride et à très peu d'autres profils autour. Là, pour le coup, je trouve qu'on a affaire à Victor à un profil peut-être un peu plus véloce, justement. C'est un joueur un peu plus petit que Weidermeyer, mais qui arrive, lui, en l'occurrence, à se démontrer assez précieux, notamment sur 3 tentatives. On l'a vu dans pas mal de rôles assez intéressants et surtout dans un profil assez athlétique qui peut lui permettre justement de s'incorporer dans pas mal de systèmes en NFL.
Oui, j'ai un peu tiqué quand tu as dit qu'il y avait un fossé entre Weidermeyer et les autres parce que moi, je suis en pleine réflexion pour savoir lequel des deux sera tight end numéro 1. Donc pour moi, il y a vraiment peu de différence. Oui, alors pour le coup, lui, il est rapide. C'est un receveur pur. On l'a vu cette année. Que ce soit d'ailleurs des tracés longs, des tracés intermédiaires ou des screens, il est à peu près décisif tout le temps. Contested catch, enfin des catchs contestés, disputé. Des réceptions contestées, il est là aussi. Faire les gardes après la réception, il est là. J'ai envie de dire que paradoxalement, ce qui est un tout petit peu frustrant vu l'adversité qu'il a rencontrée, c'est qu'il... Il est rapide, mais il n'a pas encore ce talent en tracé qui lui permet de faire une séparation. Je trouve qu'il pourrait faire plus de séparation que parfois il se complique un peu la vie en restant au contact du défenseur, mais ça se coach parce qu'il a la vitesse pour ça. Et je trouve que c'est un très bon bloqueur. J'ai des vidéos que j'ai regardées cette année. Je trouve qu'il y a un vrai progrès là-dessus. Pour être tout à fait honnête, Colorado State, ce n'est pas forcément ce que je regarde le plus en général, mais en tout c'est cas, des matchs que j'ai vus, c'était pas mal. Donc, je pense qu'il va exploser au combine et que si ça, au sortir du combine, il y a plus de chances qu'il soit numéro 1 que Wider Meyer.
Ça s'entend. Moi, je l'avoue, pour l'instant, alors tu vois, si on reste sur le côté un peu projection, même si ça peut évoluer de par ce que tu évoquais tout à l'heure, je le mettais peut-être plus aux alentours du deuxième, troisième tour. Pour toi, c'est un deuxième tour sûr ?
Pour moi, c'est un deuxième tour.
Pour l'instant ?
Pour moi, c'est un deuxième tour. Et si bonne intersaison, il peut même gratter une fin de premier. Mais en tout cas, deuxième, oui.
Très bien. Bon, bah, écoute, on attendra de voir ça. Mais oui, en tout cas, c'est là, pour le coup, on est vraiment sur deux profils assez différents, malgré tout. Hein. Là, très clairement, je pense que c'est une question de goût et de couleur. C'est à peu près ce qu'on, dans quel système offensif on évolue, de quoi on a besoin en priorité dans l'immédiat, parce qu'on parle encore une fois de joueurs qui peuvent être assez performants assez rapidement, des joueurs qui peuvent être titulaires en étant dès leur saison rookie. Donc voilà, ça va être deux profils à suivre de très très près en effet, et je te rejoins, le combine peut éventuellement redistribuer les cartes dans ce duel à distance entre le joueur des Aggies et celui des Rams. On passe dès à présent au tiers 2.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et on va parler d'Isaiah Likely, tight end de Coastal Carolina. Grosse saison d'ailleurs pour Coastal Carolina. Ces deux dernières saisons d'ailleurs, on avait une équipe des Chanticleers assez surprenante. Hein, équipe qui n'a pas forcément remporté sa conférence cette saison, mais qui a surfé notamment sur une grosse attaque incarnée notamment par son tight end. 59 réceptions, 912 yards et 12 touchdowns pour Isaiah Likely. Tu veux nous en parler un petit peu, Victor? C'est un profil là aussi, un homme vraiment à tout faire, notamment dans le domaine aérien. Ça a été une constante soupape de sécurité pour Grayson McCall et l'attaque de Coastal Carolina.
Oui, c'est ça. Il est un peu à l'image de son équipe, c'est-à-dire qu'il a surpris tout le monde la saison dernière. On s'est dit, du coup, il y a la saison 2020, on s'est dit il va falloir confirmer en 2021, et il a confirmé. Un peu à l'image de Coastal Carolina en entier. C'est surtout un receveur, pour le coup. Je vais le dire tout de suite. Il y a de la vitesse, menace profonde, changement de direction tracé. On le voit même, d'ailleurs, s'aligner en receveur assez régulièrement. Mais ce qui m'empêche, je dis tout de suite, d'en faire un chapeau 1, par exemple, c'est que, pour le coup, il m'inquiète un peu plus en bloc que les deux d'avant. Il a quand même 10 kilos de moins que McBride, et ça se ressent parce que McBride il joue presque 10 kilos supérieur à son poids. Si on regarde que la vidéo, Likely, on a presque l'impression qu'il est encore plus léger que son poids réel. Quand j'ai vu 108 kilos, je me suis dit « Oh là là, on va attendre au combine parce qu'à mon avis, on va nous sortir un 101 kilos, il ne faudra pas cligner des yeux. » Donc, il est quand même très fin. Donc là encore, ça va être très spécifique à certains schémas. Et je pense que Likely, il peut être très haut dans certains big boards et il peut être rayé d'autres big boards. Parce que si tu cherches un tight end traditionnel, bloqueur, etc., ce n'est pas avec lui que tu le trouveras. Par contre, en réception, oui, c'est un joueur qui peut soulager n'importe quel quarterback. Et du coup, c'est ce type de joueur qui partira au troisième tour, à mon avis, pour aider une attaque. Pas pour être le facteur X de l'attaque, mais pour être un chaînon manquant dans un système qui aurait besoin d'une polyvalence comme la sienne.
Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, mais oui, en effet, c'est inquiétant dans le sens où on attend un peu plus d'être rassuré dans le domaine vraiment physique de son jeu, de ce qu'il peut apporter. Et la question, ça va vraiment être de savoir si ça peut être un profil efficace vraiment sur trois tentatives, parce qu'il est capable de jouer dans le domaine aérien. Et si c'est un peu plus compliqué de bloquer et que c'est un profil vraiment unidimensionnel, ça peut devenir un petit peu compliqué en fonction des schémas dans lesquels on va être amené à l'utiliser. Donc voilà, très profil assez polyvalent malgré tout, mais on va dire dans le côté vraiment, je sais pas comment dire ça, mais le côté physique du terme, pas forcément dans ce qu'il peut apporter au niveau du terrain. Donc à voir éventuellement ce qu'on peut tirer d'Isaiah Lackley. Troisième tour quand même a priori. On reste pour l'instant là-dessus.
Ouais, troisième tour, c'est bien, oui.
Donc, à suivre au sein de ce tier 2, donc Isaiah Lackley, Tyden de Coastal Carolina. On passe à présent au Tyden de Wisconsin, Jake Ferguson, joueur donc des Badgers, qui cette saison a collecté au total, qui était la principale cible, en l'occurrence de son quarterback Graham Hurts, 46 réceptions pour 450 yards et 3 touchdowns. On va le dire tout de suite. On a parlé d'Isaiah Lackley, pardon, qui était prolifique en termes de réception et pas forcément en termes de bloc. Ça reste un tight end de Wisconsin. C'est un joueur qui devrait exceller sur les phases de protection, qui est largement perfectible dans le domaine aérien. Entendons-nous bien. Maintenant, on a quand même vu que dans le système assez stéréotypé de Wisconsin, où ça fait beaucoup de courses, petites passes sur le tight end, c'est un joueur qui a posé beaucoup, beaucoup de problèmes justement sur les duels en un contre un. C'est ce qui m'amène à penser, sans en faire une vedette absolument, c'est ce qui m'amène à penser qu'en NFL, c'est un joueur qui peut fitter dans pas mal d'équipes. Là aussi, il y a peut-être la question des trois tentatives éventuellement à aborder, parce que c'est peut-être pas le type de profil dans la NFL moderne qui va être le plus à même de briller dans le jeu à la réception. Mais en termes de bloc, je trouve dans une attaque notamment qui court beaucoup, comme le fait d'ailleurs Wisconsin en règle générale, ça peut être un régal pour l'équipe qui le récupère, Victor. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, à titre personnel.
Ah oui, c'est sûr que quand il s'agit de défendre la course, ce n'est pas dernier. Ça, on est d'accord qu'il fait le boulot. Peut-être un peu plus de mal à défendre la passe quand parfois ils ont des schémas un peu spécifiques, Wisconsin. Il est plus dans, on va dire, dans la poussée verticale que vraiment dans contenir son adversaire. Après, je pense que, comme tu l'as dit, sur des petites réceptions, des screens, des choses comme ça, comme il est explosif et rapide, il peut vraiment faire des jolis gains. Sur les tracés moyens et longs...
Ah, c'est pas son point fort.
Ah ouais, tu te dis, avec une telle vitesse, c'est assez incroyable d'être aussi inoffensif, quoi. Il n'arrive pas à faire la séparation. Alors, est-ce qu'il n'est pas assez vif? Est-ce que... Je ne sais pas, mais il n'y arrive pas. Donc, c'est sûr que il est situationnel. Parce que dans la NFL d'aujourd'hui, il y a quand même plus d'équipes portées sur la passe que d'équipes portées sur la course. On serait en 99, il serait sûrement plus regardé. J'ai l'impression que pour 2021, il est situationnel et je vois plutôt 4e-5e tour, personnellement.
Oui, ça ne me paraît pas incompatible, mais encore une fois, après, on rentre vraiment dans des profils, je trouve, assez homogènes, un peu, j'allais dire interchangeables, mais c'est un peu l'idée, c'est en fonction des préférences des uns et des autres. Je ne suis pas sûr qu'au niveau des équipes NFL, même si encore il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer avec le processus draft qui commence, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de big boards qui soient similaires en fonction des équipes NFL. Je pense que ça va peut-être commencer justement à partir du 4e-5e spot, à se dire bah, finalement ce profil me plaît bien, celui-là un petit peu moins. Mais je trouve que Jake Ferguson marque des points en l'occurrence dans ce côté. J'ai la capacité notamment à être intéressant, notamment sur des tracés courts, sur le côté vraiment pure soupape de sécurité dans le domaine aérien et sur l'aspect vraiment purement bloc, notamment dans le jeu au sol. Après, tu te rejoins, voilà, on ne pourra pas forcément lui faire faire une énorme variété de choses. Et je pense même que ça peut être un joueur dont l'utilisation, en effet, va être extrêmement limitée dans les schémas. Voilà. Il faudra vraiment le prendre dans un schéma spécifique, un schéma où on va jouer assez agressif, notamment offensivement, enfin, en tout cas au niveau d'un jeu au sol très, très agressif. Mais ce sera un profil à surveiller très, très clairement, même si je te rejoins, il n'a pas forcément autant contribué que ce que ça aurait pu dans cette attaque de Wisconsin, qui, bon, après, ne passe pas non plus à outrance, entendons-nous bien là-dessus. On passe au dernier profil donc, de ce tier 2, Charlie Collard, tight end d'Iowa State. Profil extrêmement intriguant cette saison à Charlie Collard, c'est que je retrouve ses stats: 62 réceptions, 756 yards et 6 touchdowns. Il a pas mal contribué ces dernières années du côté d'Iowa State, hein. Il a contribué notamment aux belles saisons des Cyclones dans la Big 12. Joueur assez complet, efficace notamment sur les phases de bloc. Est-ce qu'il ne doit pas peut-être se perfectionner un peu dans le domaine aérien, à moins que tu vois autre chose?
Efficace, je ne sais pas. Je dirais suffisant. Je n'irais pas jusqu'à efficace, pour le coup.
Bah, ça peut, en tout cas, en zone rouge, il a montré qu'il pouvait être
décidé. Ah, ça, c'est vrai.
Voilà, c'est plus dans ce sens-là aussi. Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est une arme en red zone.
Parce que c'est un joueur générationnel en red zone.
c'est un joueur qui peut réceptionner des tâches d'armes. Après, j'ai peur qu'il fasse un peu que ça. Je suis un peu méchant, mais... C'est un joueur, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans qu'on a atteint son plafond, en fait. Et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il progresse d'année en année. Ça fait 78 ans qu'il est à Ohio State. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que finalement, tu auras un bon troisième tight end que tu pourras utiliser en effet en zone rouge.
Il y a un côté, c'est vrai. Enfin, je n'ai pas tous les exemples en tête. Il a un côté Cameron Brait à Tampa, par exemple.
Oui, voilà. Bah, Cameron Brait, oui, bon, il est peut-être tight end numéro 2 maintenant, mais c'est vrai que, oui, c'est un peu ce type de joueur. C'est bien. C'est très bien. On ne va pas dire que ce n'est pas un mauvais joueur, mais quand même, quand tu prends un mec, c'est pour qu'il progresse, en fait. Mm. Et j'ai l'impression que finalement, là, bah, tu auras un mec, tu sais déjà qui c'est, en fait. C'est un joueur correct qui t'apportera des choses sur certains schémas de jeu, mais qui est suffisant, qui n'a pas de réelle faiblesse, mais qui n'a pas non plus des gros points forts à part la red zone où tu te dis « Waouh, c'est le joueur que je veux ». Donc pour moi, il sera utile, pas beaucoup plus.
Très bien. Où tu le situes exactement? Est-ce qu'on est 4e, 5e également ou encore un petit peu plus bas?
Ouais, 5e. 5e, c'est bien.
5e concernant Charlie Collard, tight end d'Iowa State. On a bien compris que c'était ta coqueluche, en tout cas.
Toi, tu le vois plus haut, c'est ça? Non, mais tu peux nous le dire.
Non, mais encore une fois, c'est pas... ça a été difficile d'établir une hiérarchie sur le poste de tight end.
Ouais, c'est très compliqué.
On va le dire d'accord. Très franchement, il y a beaucoup, je pense, il y a beaucoup de cartes qui vont être intéressantes à identifier lors du combat, notamment sur cette position-là. Parce que c'est vrai que, ouais, je le répète, mais ouais, notamment au milieu du panier pour l'instant. Voilà, on sait que ça ne fait pas rêver. Hein. Si on prend une comparaison Cameron Brait, par exemple, c'est un joueur qui peut rendre des services, qui peut être efficace à la réception. Mais c'est sûr que voilà, ne faut pas s'attendre à avoir que des profils type Kyle Pitts, Darren Waller ou ce type de joueur dans cette QV. Donc voilà, je suis 4e, 5e, ça me paraît pas mal, peut-être 5e. C'est un joueur qui peut contribuer aussi sur l'équipe spéciale, hein, Charlie Collard. Mais voilà. C'est un besogneux, oui. C'est un besogneux, comme tu dis, mais voilà, qui a beaucoup de limites aussi dont il faut savoir tenir compte. On passe dès à présent au tier 3.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et on va commencer, Victor, par Cade Houghton. On parlait de joueur qui joue à peu près depuis 12 ans en college football, je pense que...
Ah oui, non, mais Cade Houghton, je pense qu'à l'époque de Tim Tebow, il était déjà là, hein, faudrait vérifier, mais...
Bon, en tout cas, voilà, Cade Houghton, tight end des Washington Huskies. Alors, on parlait de joueurs qui stagnent un petit peu, alors... Les stats ne mettent pas forcément en avant le travail qui est réalisé par le joueur de Washington. Cette saison, en attendant, en 2021, donc c'était 28 réceptions pour 250 yards et un touchdown. D'ailleurs, c'est moins bon avec plus de matchs que la saison 2020, hein, qui avait été bien entendu tronquée par la crise sanitaire, où en 4 matchs, il avait quand même fait 258 yards et 3 TD. Donc, très franchement, on n'a pas du tout les mêmes dynamiques. De la part de Cade Houghton, ça fait malgré tout partie de cette classe de tight end du côté de Washington qui est souvent pas à prendre à la légère. C'est pas forcément des vedettes, et si on prend un Will Disley par exemple, ce type de joueur qui sort de l'université de Washington, c'est des profils qui restent assez complets, mais avec un développement qui est non négligeable.
Ah bah, quand on met Cade Houghton dans le chapeau 3, tu te doutes bien que la QV est pas extrêmement profonde. Je trouve que oui, c'est un joueur, là encore, hein, pardon, mais c'est un joueur utile. Malgré tout, je pense qu'il est sous-utilisé en réception.
Oui.
Il m'a l'air vraiment d'être un bon coureur de tracé, mais il est très peu visé dans les schémas. Donc, je pense que pour le coup, il peut être, lui, une belle surprise sur ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur bloqueur de la Terre, mais ce n'est pas une catastrophe. Par contre, avec des dimensions physiques et des tracés pareils, si tu trouves un quarterback qui l'utilise bien, il peut vraiment produire. Donc, pour moi, c'est un joueur qui sera forcément, de par sa production en université et son âge, etc., il va se retrouver, là encore, dans les 4e, 5e tours de draft. Mais pour le coup... Tu vois, j'ai l'impression que Charlie Collard, on a utilisé 100% de ce qu'on pouvait en utiliser. Cade Houghton, j'ai toujours eu l'impression que le coach ne réfléchissait pas à quel joueur il avait en face de lui. Genre, c'est un excellent coureur de tracé, fais-lui courir des tracés. Arrête de le mettre dans des schémas où de toute façon, tu sais qu'il ne recevra pas la balle. J'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose ici qui n'est pas exploité. Donc, c'est un risque que j'aurais, pour le coup, beaucoup plus envie de prendre.
Mais ça pue le 5e tour quand même. Justement, le dis, bon, il y a pas, ça va être un joueur à développer. Et finalement, parce que je te rejoins totalement, l'attaque de Washington, notamment l'attaque aérienne, ça a été une vraie catastrophe cette année. Ça a coûté sa place d'ailleurs au head coach des Huskies. Mais oui, c'est sûr que par rapport aux chiffres que j'évoquais en introduction, la comparaison notamment entre Cade Houghton et 2020 et 2021, c'est sûr qu'on se dit que c'est un peu le jour et la nuit. On se demande presque s'il a joué dans la même équipe, quoi. Mais on peut clairement en tirer beaucoup plus.
Bah, il a joué avec Dylan Morris, quoi.
Voilà. Non, en tout cas, je pense que dans une attaque vraiment beaucoup plus portée sur le jeu aérien, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Parce qu'il y a un profil dont on va parler tout à l'heure, un tight end qui était décent, mais dans une attaque où il y avait tellement de menaces qu'il n'était pas sollicité. Cade Houghton, pour le coup, c'était peut-être la principale menace offensive de Washington qu'on n'a pas suffisamment mis à contribution, en tout cas exploité, même sur des match-ups en effet où c'était assez favorable. Donc voilà, ça aurait pu être un sleeper potentiel, mais voilà, il y en aura d'autres à citer éventuellement. On va parler justement du joueur dont je parlais il y a quelques secondes, que je mentionnais pas forcément nommément, mais en tout cas, Jeremy Rucker, tight end d'Ohio State cette saison, c'est 26 réceptions, 309 yards et 3 touchdowns dans la grosse attaque d'Ohio State. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire qu'au niveau des chiffres, ce n'est pas flamboyant. Il paye un peu, on va dire, cette utilisation un peu ponctuelle des tight ends dans le système d'Ohio State où c'est extrêmement vertical, extrêmement écarté la majeure partie du temps. C'est un joueur qui montre peu de faiblesse, on va dire, d'un point de vue réception. Mais l'échantillon reste quand même assez mince malgré tout pour se faire vraiment un opinion de ce que ça peut donner en NFL, non ?
On ne sait pas ce qu'on a. Conseil, si vous êtes un jeune qui veut devenir tight end, n'allez pas à Ohio State, en tout cas pas actuellement. Non, mais tu l'as dit, il a dans son équipe 3 receveurs extraordinaires. 2 qui seront au premier tour cette année et 1 qui sera au premier tour l'année prochaine. peut-être même très haut au premier tour. Ça, c'est une autre discussion. On a globalement, enfin, moi, pour le coup, Jeremy Rucker, pour moi, c'était Das Gödert. C'était ce type de joueur. Et finalement, j'arrive à la fin de la saison, j'en sais pas beaucoup plus qu'au début de la saison. Tu as l'impression qu'il n'a juste pas été utilisé. Alors oui, il ne fait pas de drop. Bah oui, il n'est pas visé. Enfin, globalement, il est aligné dans des schémas où, de toute façon, il est la quatrième, la cinquième, la sixième option. Déjà, s'il récupère la balle, c'est que quelque chose s'est mal passé dans le schéma offensif. Donc, je ne sais pas. Je sais pas quoi faire de joueur. Il a juste pu montrer qu'il est un bloqueur décent. Il est même un bon bloqueur pour ce qui concerne la course.
Oui, oui, ah. Oui. Non, mais oui.
Quand oui, il s'agit
après,
de quand
après,
même
clairement
de
sur le plateau, c'est en fait c'est ça, c'est qu'on est plus sur le papier, sur d'un point de vue formation, c'est plus un tight end avec des mains. Le problème c'est que c'est un tight end avec des mains qu'on n'a pas utilisé dans le domaine dans lequel il débrouillait. Donc c'est sûr c'est qu'après ça. On regarde, on se dit ouais niveau bloc, bon c'est sympa, mais par rapport à d'autres, c'est pas là où il va se démarquer a priori en tout cas.
Ce qu'on aurait attendu d'un joueur comme ça, c'est 800 yards et 9 touchdowns, quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, on le dit depuis 3 ans, il a des super mains, très bien, super, on le voit de temps en temps. Mais là.
Il y a des fulgurances, il y a des catchs assez spectaculaires. En zone rouge également, je parlais tout à l'heure de Collard. Très franchement, Rucker, en zone rouge, ça peut éventuellement être une soupape de sécurité aussi.
Oui, oui. Mais c'est un bon enseignement. Souvent, on dit, dans les grandes universités, vous êtes plus regardé et tout. Mais parfois, quand tu n'es pas dans le bon schéma de jeu, même si tu es dans une des 5 plus grosses universités actuelles, si le schéma ne te correspond pas, ça va jouer sur ta valeur. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'il sera… Et alors lui, je prends justement, j'en sais tellement rien que je vais prendre un spectre large avant le combine et tout. Il sera entre le 4e et le 6e pour moi. Mm-hmm. Mais je pense que là encore, là… On arrive sur une page blanche. On ne sait pas ce qu'on a. Vous avez peut-être un super joueur qui va être 10 ans titulaire en NFL. Vous avez peut-être un mec qui ne mettra pas les pieds sur le terrain. Je suis incapable de vous dire ce que vous avez.
Ouais, ouais, pour moi, c'est un peu le même profil qu'Otton. C'est-à-dire que c'est 5e tour, mais fin 4e, début 5e. Et tu vois éventuellement jusqu'où tu peux. Enfin, ce que tu peux voir, tu peux essayer de voir au maximum ce que tu peux en tirer. Après, ouais. Après, je ne sais pas, on a eu des bonnes surprises. Hein. Attends, je revérifie, histoire de ne pas dire de bêtises, ce serait bien.
Non, mais tu auras toujours des joueurs
qui vont. Je crois que je vais confondre avec Jason, mais… Ah non, Travis Kelce était 3e tour. J'allais dire que Travis Kelce avait été drafté relativement bas.
Oui, c'est Jason qui est 5e tour.
C'est Jason qui est drafté 6e, ouais, tout à fait. Mais on est sur ce profil éventuellement de tight end qu'on récupère un petit peu sous le manteau, entre guillemets, et puis on se dit, bon, bah, écoute, si ça perce, tant mieux. Bah, si c'est pas bon, au moins, il contribuera dans d'autres domaines. Ça fera partie de ces joueurs qui font le boulot, que ce soit en attaque ou sur équipe spéciale. Mais très clairement, ouais, Jeremy Rucker, pour l'instant, beaucoup de frustration quant à son talent potentiel. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à prouver. Je ne sais pas s'il n'aurait pas gagné à rester une année de plus. Enfin, bah non, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on dit, peut-être à transférer, vu que c'est la grande mode.
Ah bah, pour
rester
le coup,
une année de plus en college football. Ouais.
Pour le coup, moi, je lui aurais conseillé de transférer ailleurs. Ça, c'est un autre problème.
On va terminer du coup avec notre dernier joueur du tier 3, un joueur que tu connais plutôt pas mal, mon petit Victor, Greg Dulcich, tight end de UCLA. Vous ne le voyez pas, mais il a un sourire en coin, fier de son homme.
Générationnel, je vous annonce tout de suite. Hein.
42 réceptions, 725 yards et 10 touchdowns. Non, et 5 touchdowns, pardon. 10 touchdowns, c'était son coéquipier Kyle Phillips. 5 touchdowns pour Greg Dulcich, joueur qui a explosé véritablement, notamment en 2020. Alors, on va le dire clairement, là, on est sur du profil excellent à la réception. Mais c'est à peu près tout, non?
on est sur un joueur unidimensionnel, un peu comme Likely, peut-être même encore plus que Likely pour le coup. On est sur un joueur rapide, excellent coureur de tracé, qui progresse, ça c'est vrai. Mais oui, il ne faut pas attendre de lui de bloquer. Et alors, surtout, il ne faut pas attendre de lui. Parce qu'encore, bon, on va dire que quand il s'agit de bloquer la course, il va pousser avec ses 110 kilos. Bon, parfois, il y arrive. Quand il s'agit de défendre la passe, c'est mort.
C'est ça. En fait, c'est un receveur un peu costaud, quoi. Si je peux me permettre une mauvaise comparaison, tu ne me voudras pas vu que tu aimes le joueur, mais c'est un peu le Kyle Pitts du très pauvre.
Moi, j'avais envie de dire, c'est un peu un Chase Claypool, dans le sens où ce genre de joueur où tu sais pas vraiment quelle est sa position et quel est son corps. Enfin, tu vois, il a un corps qui parfois ressemble pas à la position. Moi, pour le coup, Dulcich, si tu le prends, c'est un receveur.
Ah oui, bien sûr.
Parce que, oui, je vois ce que tu veux dire quand tu dis 4 pits du pot, mais 4 pits, quand même, quand il s'agit de bloquer, c'est quand
même... Ah non, mais c'est pour ça que je te dis... Non, c'est pour ça que je te dis très pot. Dans le domaine aérien, c'est un joueur que tu peux utiliser dans beaucoup de situations, mais ouais, en termes de bloc, il est beaucoup trop limité, quoi. Surtout dans une attaque de UCLA où, globalement, tu cours quand même un peu, quoi.
Ah bah, c'est sûr que, bon, cette année, ça courait de partout, donc... Il y avait deux menaces offensives dans le jeu aérien. Ils étaient deux, donc ils se sont répartis des tâches. Après, voilà, il a montré dans des gros matchs comme LSU, et je pense que ça va aider à sa cote pour la draft. Mais bon, c'est un joueur, là encore, oui, c'est ton receveur 3, receveur 4, mais ça ne sera jamais ton tight end numéro 1 ou numéro 2. Donc, c'est un peu compliqué. En fait, le problème, c'est qu'il y a du talent, mais... projeté en NFL, je sais pas. C'est un peu ça le problème.
Il y a un profil athlétique pour jouer sur l'équipe spéciale, en tout cas.
Ça, oui. Et ça aidera, tu as raison, ça aide toujours la draft d'être bon en équipe spéciale, notamment en fin de draft. Après, voilà, je pense que s'il est au cinquième tour, déjà, il serait très content. Je pense que lui, pour le coup, ce sera plus sixième tour.
Oui, pareil. Cinquième, sixième, je pense. Si vraiment une équipe a le béguin, je pense que ça peut être fin de cinquième. Au-dessus, ça me paraîtrait quand même assez étonnant. Mais oui, on est sur un joueur largement perfectible, notamment d'un point de vue, tu le disais tout à l'heure, mais physique et technique. Et c'est vrai que c'est deux éléments aujourd'hui en NFL qui sont quand même
indispensables,
hyper prépondérants. Ouais. On est d'accord.
Bien sûr.
On a terminé avec le tier 3, on va terminer avec notre sleeper dans cette émission, un nom que certains connaissent peut-être, hein, pour ceux qui suivent le college football d'assez près, mais un joueur qui a eu une saison 2021 écourtée, c'est pour ça que je vais citer notamment ses stats lors de la saison 2020, il s'agit de James Mitchell, tight end de Virginia Tech, qui a donc eu en 2020 26 réceptions, 435 yards et 4 touchdowns. Alors là, pour le coup, c'est pas le même profil que Dulcich. C'est-à-dire qu'on a affaire à un joueur assez costaud, efficace sur le bloc. Est-ce que lui aussi, il a été suffisamment exploité dans le domaine aérien? Et surtout, est-ce que ça te rassure le fait qu'il sorte de cette année un petit peu blanche dans une attaque des Hokies qui, quand même, depuis plusieurs mois maintenant, a montré des signes constants de régression?
Je ne sais pas si ça me rassure le fait qu'il ait été blessé toute la saison.
Oui, c'était un peu mal posé comme question.
En général, ça ne me rassure pas trop. Mais non, mais... Après, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un joueur, oui, qui a été sous-utilisé. Je pense que lui aussi, on peut le rentrer dans cette catégorie des Jeremy Ruckert, de ces joueurs-là. Oui, bah, c'est sûr que tu aurais été mieux à Coastal Carolina. Il a l'air d'avoir quand même, de ce qu'il nous a montré en 2019-2020, des bonnes mains. C'est un bon athlète, tu l'as dit. Hein.
Ancien basketteur.
Voilà, globalement, il sait poser ses mains. Il bloque pas mal. C'est pas un coureur de tracé phénoménal, en le sens où il crée pas une séparation extraordinaire, mais là encore, ça se coach, parce que j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement lent. Je trouve qu'il est pas mal. Comme on peut s'attendre d'un ancien basketteur, quand il faut aller jouer 50-50 et tout, il est là. Hein, il va se battre au rebond, comme on dirait dans le panier ballon. Mais voilà, je pense que cette blessure en 2020, c'est compliqué. En 2021, pardon, ça a cassé un peu cette progression. On voulait en voir plus, on ne l'aura pas vu. Et du coup, là encore, ça va le bloquer en fin de draft. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas vu assez que c'est un mauvais joueur. Je pense que vraiment, pour le coup, tu vois, Mitchell, contrairement à un Dulcich ou contrairement à un Likely, qui sont des joueurs pour des schémas spécifiques, Mitchell, je pense qu'il peut être utile partout. Donc, c'est ce qui le sauvera aussi, c'est que ton à peu près tous les schémas, tu pourras utiliser.
On le met un petit peu à l'honneur, mais ça ne veut pas dire que forcément, il est en dessous de ceux qu'on a évoqués avant.
Il aurait pu être dans le chapeau 3, hein, honnêtement.
cinquième, sixième tour peut-être. Enfin, honnêtement, ouais. tout va être à relativiser de par sa blessure, je pense.
C'est ça, je dirais. Pour l'instant, je vais dire cinquième, septième, en attendant le combine, les examens médicaux, etc. Si on nous dit que tout va bien et qu'il est à 100%, ouais, je pense même qu'il peut être cinquième devant tout notre chapeau 3, tu vois. Mmh. C'est pas impossible.
Ouais, mais je sais qu'il y a beaucoup de profils de tight end. On aura le temps de développer dans ce processus draft, mais il y a beaucoup de tight end éventuellement à suivre d'assez près. Je sais que. Et j'étais d'accord avec toi sur le profil assez intéressant d'un Chigozie Okonkwo, notamment du côté de Maryland, le massif tight end de Maryland qui a montré des bonnes choses, notamment dans le domaine aérien cette saison. On aura l'occasion de développer là-dessus, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs, je le répète, où les cartes, enfin qui peuvent redistribuer en tout cas les cartes au cours des prochaines semaines à venir. Et voilà, même sans être la position la plus sensuelle, ça peut être en tout cas une des plus indécises et une des plus mouvementées à suivre, parce qu'avec des changements assez constants, ou en tout cas des équipes qui vont avoir peut-être des choix vraiment très variés et très tranchés par rapport aux uns et aux autres.
Ouais, je suis d'accord avec ça.
Bon, bah, je te remercie en tout cas, Victor, d'avoir été en ma compagnie pour cette émission consacrée spécifiquement au tight end. Pour la précision, donc la semaine prochaine, vous retrouverez le podcast qui fera notamment... Ce sera un dernier podcast, un petit peu révision de position. On s'intéressera un peu plus au profil hybride. On fera peut-être un petit mot rapide sur les kickers ou les punters éventuellement en évidence. Hein. On ne fera pas un top 8, très clairement, a priori. Ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Et puis, on en profitera également pour teaser un petit peu tout ce qui est retourneur ou encore faire une petite preview de ce qui va se passer lors du Senior Bowl prévu le week-end prochain. Donc voilà, savoir un petit peu les profils les plus intéressants à suivre pour que vous ayez un maximum de clés concernant les joueurs seniors à surveiller de près au cours de ce processus draft. Merci encore Victor. Pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, Victor Roulier, donc sur Twitter, Yellow Radio ça pour moi-même, toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com. À très vite pour la suite de l'actualité draft sur Touchdown Actu. Ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.